Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama qui est de retour après 15 jours de silence sur les ondes. Bonjour Martin.
Bonjour.
Un silence qui est dû à ton absence déjà.
Entre autres, voilà.
Puisque tu étais absent 3 semaines, moi j'ai été absent aussi une semaine et je me suis pas senti faire l'émission tout seul. Je l'ai fait tout seul déjà pour parler d'Arnaud Despalières, mais après j'avais pas suffisamment de sujets, d'autant plus que j'ai pas trop mis les pieds dans les salles de cinéma comme toi d'ailleurs.
Oui, tout à fait, mais déjà je tiens à saluer ce bel exploit d'avoir réussi à combler une heure d'antenne tout seul. C'était quelque chose, c'était une grande première aussi depuis 3 saisons Cinérama, il y a eu toujours au moins 2 personnes. Et
là c'était du solo. Alors pour ton premier film vu en salle, j'imagine que tu es allé voir Camping 2.
Oui, je me suis précipité après 3 semaines d'abstinence, j'ai pas résisté, donc je suis allé voir les aventures, la suite des aventures de Patrick Chirac, voilà, ouais, tout à fait.
Absolument.
Non, je plaisante, histoire de me remettre dans le bain, j'ai essayé d'aller voir quelque chose d'un peu intéressant, et c'était Green Zone, donc dernier film de Paul Greengrass, donc je vais vous parler un petit peu. Je suis aussi allé voir Kick-Ass, donc un film qui fait pas mal parler de lui en ce moment, qui est un énorme succès aux États-Unis et qui a son petit succès également en France, donc ça aussi je vous en parlerai. Et puis pendant ces 3 semaines où je n'étais pas là, j'en ai profité pour aller faire un tour voir la Dame de Fer dans la capitale, et je suis également allé voir l'exposition Kitano, donc à la Fondation Cartier, dont on avait signalé l'ouverture quand tu avais parlé de Achille et la Tortue. Voilà, je vais vous en faire un rapide petit compte-rendu, une belle expo que je vous invite à aller voir.
Et puis moi, j'ai décidé de faire un spécial Delépine et Kervern. On veut revenir un peu sur leur filmographie parce que Mammouth avait été projeté il y a déjà un mois en avant-première ici au Cinéma Diagonal. Alors on avait pu rencontrer Gustave Kervern lors d'une conférence de presse un peu somnolente et qui allait un peu dans tous les sens. Donc j'en ai pas extrait grand-chose de cette conférence de presse, si ce n'est un petit montage que j'avais déjà diffusé. C'était il y a un mois sur Depardieu. Puisque Kervern n'a cessé de parler de Depardieu pendant les 3/4 de cette conférence de presse. Donc, petit point sur cette filmo que sans doute vous connaissez déjà. Et puis, ce sera à peu près tout avec une petite chronique sur Mammouth. Alors, je dirais 2-3 mots assassins sur le dernier film d'Arcadie, comme Les 5 doigts de la main, que j'ai pu voir aussi, c'était vendredi dernier, qui est vraiment mauvais. Enfin, on peut le dire comme ça. Enfin, c'est même plus la peine de faire du cinéma en 2010 comme Arcadie le fait. Et puis 2 petits mots sur La Chine est encore loin de Ben Smaïl, qui sera demain au cinéma Diagonal après la projection de ce documentaire qui a été tourné alors il y a très longtemps, qui a remporté de nombreux prix et qui sort seulement sur les écrans français. Voilà, c'était le sommaire de Cinérama et on commence donc avec Kervern et Delépine. On va faire connaissance avec le duo, avec le plus connu des deux. On va commencer par Benoît Delépine, d'abord auteur des Guignols à son début et incarnant dans le Grand Land Magazine le personnage de Michael Cull, un journaliste de reportage feignant, zoophile, nécrophile et on peut le dire cocaïnomane.
Vous le savez, la police des douanes vient de saisir 1351 kilos de cocaïne au terme d'un an et demi d'enquête. On retrouve Michael Cull en direct du commissariat de Toulouse. Michael!
Alors, de ce personnage populaire sera tiré un film. En 97, Michael Cull contre la World News Company, où Delépine incarnera le journaliste aux prises avec une machination dont il se sortira surtout par incompétence journalistique. Alors, c'était un bide. Il continuera à écrire des sketchs pour Groland par la suite. Et on va passer tout de suite à Gustave Kervern, qui lui aussi vient de la télévision et de Canal+, plus particulièrement, même s'il a commencé sa carrière alors auprès de Patrick Sabatier dans l'émission Avis de Recherche. Il est lui aussi un auteur et un personnage de Groland, on lui ajoute une particule et ça devient Gustave de Kerverne, mon bon journaliste alcoolique caricaturant le reporter local. Et là, on va l'écouter eh bien, lors d'un reportage, lors d'une projection de Bienvenue chez les Ch'tis.
Bon, c'est pas bientôt fini, hein? Vous allez arrêter tout ce bordel, là, oh! Quoi? Et quoi, tu vas arrêter de bouffer tes merdes, là? Tu crois que t'es pas déjà assez grosse comme ça? C'est quoi ton but? Avoir le plus gros que le monde? Et toi, du con, là? Avec tes messages, là? Tes SMS, ça peut pas attendre une heure pour envoyer tes messages à la con, t'es qui, tes biguettes? Hein? Je suis pas là, je vais bientôt revenir, nanana. On s'en branle! Et toi, du con, là? Toi qui te parles sans arrêt à te fermer ta gueule, à tout commenter, là? Si on a envie de voir Thierry Roland, regarde le match de foot! Mais vous faites chier! Tous! Amis, vous êtes! Vous me faites chier! Voilà!
S'il vous plaît!
Allez, on se casse, putain!
Excusez-moi, je suis
pas de con! Putain! Chier, là!
Allez, Edouard. Un grand bain de bonheur, hein. Putain!
Martin, ça ressemble à une expérience que tu avais vécue et que tu avais racontée à Cinérama, hein, cette ambiance de salle de cinéma où tout le monde est occupé à son portable.
Tout à fait, oui. Bah, c'est une conférence de presse, j'ai l'impression, où ils s'énervent un peu, mais j'avais pas vu ce sketch.
Non. Ils ont reconstitué une séance normale dans un multiplex.
D'accord, voilà. Oui. Mais c'est des scènes qui arrivent, hein,
oui, absolument.
Des gens énervés qui quittent la salle.
Il y en a même qui se battent, il y a des faits divers comme ça. Alors donc, ces deux-là se rencontrent à la télévision et décident plutôt que de continuer à faire dans le sketch, eh bien, à faire des films et des bons films. Alors, on ne va pas dire sans défaut, mais disons que les défauts sont vite gommés par la sincérité et l'exigence qu'ils mettent à revenir à un cinéma simple, avec peu de mouvements de caméra, un son un peu brut, une image parasitée. On pencherait pour un cinéma arrêt-essai post-punk. Alors, le premier long-métrage arrive en 2004 avec Altra, l'histoire de deux voisins qui se détestent copieusement et qui vont souffrir d'un même handicap suite à une dispute autour d'une benne de tracteur qui leur tombe sur les jambes.
Si on peut partir, de toute façon, il n'y a pas de façon possible.
Messieurs, bonne nouvelle, nous allons vous libérer. Ne perdez pas espoir, ne perdez jamais espoir, jamais. La science fait des progrès tous les jours, et puis comme on dit, une jambe de perdu. Bon, je vous laisse, je suis un peu fatigué.
Voilà une scène avec un guest, ce grand déconneur de Pierre Carle. Humour noir, comique de situation, budget familique, tourné en noir et blanc et absence de stars font la recette de ce premier film qui est une sorte d'hommage à Aki Kaurismäki, le réalisateur finlandais qui apparaît même à la fin du film dans un ultime pied de nez. Alors pas sérieux, Altra, non, sûrement, mais un bel exercice de style dans le genre road movie en fauteuil roulant, ce qui était peut-être une première, puisqu'il est question d'aller en Finlande pour demander des comptes aux fabricants de la funeste remorque.
Alors ?
Super.
Un sandwich ?
Ah non, j'ai trouvé mieux. Regarde. L'essai de la Husqvarna automatique, la seule qu'il y a eu dans l'histoire du cross. 1982. Pas besoin des pieds pour la faire marcher.
Putain, tu commences à me faire chier avec tes motos, là, putain. Et tu vois pas que c'est foutu pour toi, là ? Hein ? C'est toi qui l'as dit. C'est toi. Tout est fini. Tu comprends, ça ? Tes rêves d'ado, là, tes stats, tes champions, là, les champions, même l'autre, là, Joël Robert, il t'envoyait chier comme une merde.
Attends, mais Joël Robert, mais lui, il a le droit de me dire ça, là. Tu sais qui c'est, Joël Robert ?
Non, je sais pas qui c'est, non.
Joël Robert, il a été 6 fois champion du monde de motocross, hein, entre 1962 et 1972. Hein, lui, il a le droit de me traiter de merde. À côté de lui, je suis une merde. T'es une merde, on est des merdes. Et tu veux que je te dise même pire, on est mort.
T'es mort, moi, je suis vivant, je vis, moi. J'ai faim, j'ai froid, j'ai même envie de tout péter, même.
Putain, mais vas-y, tape sur un handicapé, vas-y.
Je m'en fous de taper sur un handicapé, tout ce que je veux, c'est aller en Finlande, moi. Barre-toi.
Putain, mais vas-y, dans ta Finlande.
Et ils iront en Finlande. Alors Altra recèle de beaux moments d'humour, à la manière des sketchs de Groland, qui sont déjà des trouvailles reposant sur le visuel. Mais le duo s'amuse aussi avec le son et la langue. Par exemple, quand les deux handicapés sont dans les pays étrangers, notamment la Hollande et la Belgique, qui reste un pays étranger, puisqu'on ne parle pas que français là-bas, eh bien rien n'est sous-titré. Alors handicap de la langue dont ils n'ont que faire, et on s'en passe bien parce que les films de Kerverne et de Lépine sont peu bavard. Alors il y a quelques moments, quelques discours anecdotiques comme celui qu'on vient d'entendre. Alors c'est Mathieu Kassovitz qui produira le film suivant, Avida, en 2006, l'histoire d'un sourd-muet captif en fuite qui se retrouve embarqué par deux toxicomanes dans un étrange trafic d'animaux. Alors l'échec de l'enlèvement du chien d'une milliardaire obèse et suicidaire va les lier à elle, et elle en profitera pour les forcer à réaliser ses dernières volontés. Un film surréaliste et hommage à Dali, puisque Avida Dollar est l'anagramme de Salvador Dali, anagramme que l'artiste avait choisi pour un portrait photographique. Avida a été présenté au Festival de Cannes 2006 en sélection officielle et hors compétition, compétition qu'il n'aurait sûrement pas gagnée puisque c'est Ken Loach cette année qui l'a remporté la palme. Avida, alors c'est une narration à l'opposé du réalisme et bien différent d'Altra. On passe de l'humour, la cruauté à l'émotion dans une esthétique noir et blanc granuleuse, alors ça c'est peut-être un point commun, et on expérimente un délire visuel. Dans ce film apparaissent Claude Chabrol, Albert Dupontel, Bully Lanners, la chanteuse Rokia Traoré, San Severino, Arabal, Jean-Claude Carrière, sans oublier le président du Groland lui-même, Christophe Saint-Lindreau, qui nous fait un lap dance sensuel. Alors encore une fois, ça a été un grand succès critique, Avida. Et puis un autre succès critique et public, c'est Louise Michel en 2008 qui annonce un virage, car pour la première fois, les réalisateurs et scénaristes ne sont pas les acteurs principaux, ça j'ai oublié de le dire d'ailleurs tout à l'heure. Alors ils laissent les rôles avant tout à Yolande Moreau et Bully Lanners, qui étaient déjà apparus dans Altra et Avida, et qu'on écoutera bientôt. Alors comme pour Altra, le scénario est simplissime, un patron délocalise une usine en emportant toutes les machines. Les ouvriers de cette usine textile se demandent de quoi faire avec les faibles indemnités mises en commun et se réunissent donc pour en discuter. Une pizzeria, eh bien non, investir dans l'immobilier, non. Louise Michel, une des ouvrières, a une meilleure idée.
Peut-être une idée, moi.
On t'écoute, Louise.
Parce qu'avec 20 000 euros, on pourrait faire buter le patron par un professionnel.
T'es folle.
Pas tant que ça.
En fin de compte.
Où le trouve-vous, le professionnel?
Peut s'en charger, moi.
Oui, ça sent bien.
Bravo, Louise, tu as de bonnes idées.
Elle a l'idée, Louise Michel, elle se charge de tout. Alors une fois adoptée la méthode radicale de l'assassinat, il faut trouver un tueur et c'est Bully Lanners qui lui a un CV plutôt remarquable.
Dis-nous des nouvelles du tueur professionnel.
Oui. C'est un gars, il a fait plein de trucs. Hein. Le cochon Chine, la Corée du Sud, Kennedy, celui. Bah bon, faut pas trop le dire. Et il a plein de fusils, fait par un autre type, un ingénieur, qui a aussi fait des cubes en béton. Non, c'est un gars fort comme une charrue. Et il a des cartes de visite avec une société, quoi.
Et pour l'argent?
Ah, car maintenant, le reste à la livraison du mort.
C'est correct.
C'est correct.
Ouais, c'est correct.
Mais t'es sûre? Parce qu'on a mis tout notre argent là-dedans.
Bah oui, je suis sûre. Je suis sûre.
Oui, mais on sent quand même tout de suite l'embrouille. Et effectivement, le tueur sera aidé tout au long par Louise Michel. Alors le ressort du scénario, c'est que finalement, on croit trouver le patron, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus, ce qui ne simplifie pas la tâche. Humour grinçant, sarcasme sur le monde actuel, film décomplexé qui enchaîne les situations improbables avec des personnages qui le sont tout autant. Une des recettes aussi hein, du duo de réalisateurs, c'est de prendre des gens absolument pas connus et qui ne sont pas forcément d'ailleurs acteurs dans la vie. Louise Michel se regarde comme un film libertaire qui prend toutes ses aises pour être complètement irrévérencieux et déconneur. Alors dans cet extrait, on aura l'idée, dans l'extrait qu'on va écouter, on aura l'idée avec le son d'un premier plan où il y a une discussion et d'un second plan qui se dessine dans la même séquence. Les réalisateurs aiment toujours autant la simplicité du cadre et ont en horreur les mouvements de caméra. On écoute ce moment où Louise Michel et le tueur cherchent à être logés dans un gîte bio.
Donc pour un peu moins de 100 euros, vous avez une chambre pour deux? Petit déjeuner compris, nous faisons le pain à la maison, le vin est du vin au chocolat biologique, aussi fait à la maison. Le café, c'est du café commerce équitable, à volonté, oméga 3, petite gélule d'aspartame, mais biologique. Et nous avons une exclusivité dans la région, c'est que nous avons des mini-fruits biologiques importés du Gabon par avion. Donc, si vous aimez. Pour les toilettes sèches, c'est en sortant à gauche. Et si vous avez des enfants, ici c'est le paradis parce qu'on a des chevaux, des moutons à lait et des poules à œufs. Ah,
ça c'est le miracle de la nature.
Et en parlant du miracle de la nature, avec ma femme, nous avons... Nous chauffons avec nos propres excréments. C'est un système qui nous permet d'être en autarcie complète. C'est un système de régulation qui marche très bien.
Oh, vous avez raison. Je vois ma villa à Saint-Tropez, 5000 litres de fioul par an. Je commence sérieusement à me poser la question du solaire.
Bah, nous aussi, le solaire ici, mais on n'a pas de soleil.
Ah oui. Et pourquoi vous avez choisi Chambaudot finalement?
C'était un peu un coup du destin parce qu'on a pu acheter avec ma femme cette ferme pour une poignée de pain. Vraiment, c'était une occasion en or, c'était suite au départ de l'ancien propriétaire. Ben, c'est un peu ça hein, aussi en ce moment, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc voilà, c'est un peu le cycle de la vie, ouais. Assimilé au business en fait.
Là, vous êtes bien ici. Hein.
On est bien.
Ouais. Ça va marcher, c'est sûr. Ouais. Et puis être son propre patron, ça, quand même, c'est rien de mieux.
C'est exactement ce que je disais à ma femme.
Ouais.
Même si on a des charges.
Ouais. Moi aussi. Un jour, la femme, c'est ça ma femme, c'est conduire de...
Madame ?
Ouais, je disais, moi aussi, un jour, je me suis dit, tiens, je vais être mon propre patron, parce que plus de comptes à rendre, c'est quand même ça, la vraie liberté, finalement.
Madame ?
C'est vrai qu'on a des charges, j'imagine que vous aussi, vous avez des charges, hein. Mais dans votre cas, ce qu'on peut dire, quand même, c'est que les gens auront toujours faim, les gens auront toujours soif, c'est un commerce qui... marchera toujours. Moi, je me dis, les gens auront toujours peur. Parce que personnellement, je suis dans la sécurité. Sécurité rapprochée, sécurité, je pense, plus large du terme aussi.
Voilà, donc une scène un peu étonnante. Alors donc, il y a cette idée du premier plan et du second plan avec le tracteur qui s'allume, enfin, qui est mise en route par Louise Michel dans la cour, parce que dès qu'elle voit un Massey Ferguson, visiblement, ça lui provoque quelque chose. Et donc, il y a Bully Nanners, le tueur, qui continue à parler avec la femme de Mathieu Kassovitz, donc qui a ce gîte au premier plan. On n'entend pas exactement tout ce qui se dit. Et de toute façon, la femme était en train de dormir juste la séquence d'avant. Elle se réveille juste pour l'écouter avec des yeux complètement hagards. Voilà, donc c'est un petit exemple. Mais je trouve que même au niveau du son, on peut à peu près voir ce qui se passe à l'image de l'Esper Martin.
Oui, on a bien vu le Massey Ferguson.
Alors, Louise Michel est sûrement le plus connu des trois premiers longs métrages. Le casting est toujours une surprise. Alors, avec Poulvord dans Savant Fou reconstituant les attentats du 11 septembre. Et Dupontel qui n'apparaît qu'à la fin du générique. Alors ça, c'est assez rare, mais c'est une apparition post-générique. Et Philippe Catherine qui chante ou encore Ciné qui, lui, ne dessine pas. Voilà, donc Louise Michel, ben, finalement, c'était seulement il y a 2 ans. Alors toi, tu l'avais vu hein,
Non.
Non,
ah, non, moi, j'ai vu aucun de leurs films.
D'accord. Tu es hermétique.
Non, du tout. C'est un hasard.
C'est la vie.
Un jour, je me ferai
l'intégrale.
Ouais. Peut-être à l'occasion de Mammouth. Si ça m'emballe totalement.
Mais figure-toi qu'il y avait un intégral à l'aise d'ailleurs.
Oui, mais non, il y a une petite anecdote dont t'as pas parlé. En fait, pourquoi ils ont appelé leur film Altra, donc avec 2 A, c'était pour être le premier film dans les dictionnaires du cinéma. Ils avaient choisi d'appeler, trouver un titre qui commence par 2 A.
Voilà.
Enfin, c'est ce qu'ils avaient déclaré en tout cas.
D'accord. Mais moi, je pensais que c'était simplement pour le scénario, parce que le nom, il y a effectivement une entreprise en Finlande qui fabrique des remorques et qui est très proche du nom Altra. C'est ce qui fait aussi, l'intérêt du film à la fin, c'est que voilà. Enfin, je le raconte pas d'ailleurs. Mais très bien, bravo. Ah,
passionnante comme anecdote.
Je n'ai pas poussé mes recherches, tout simplement. Ouais. Enfin, c'est un aveu. On va écouter, pour faire une petite pause avant de retrouver Green Zone et ta chronique, on va écouter, donc, c'est Bully Nanners qui apparaissait dans Altra. Bully Nanners, alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ils arrivent effectivement en Finlande, ils débarquent dans un vieux rad avec une soirée karaoké, voilà, avec des anciens hardeux. Des grands chevelus, moustachus, qui font 2 mètres en Finlande, je crois que c'est l'étalon normal. Et donc, il y a Bully Nanners qui interprète un des grands standards de la chanson de la variété internationale, c'est Sony, on écoute.
Sony, if I can have a dance, I'd hop in the fire. Sony. your frog and half a nose. I can't make all your dick and the frogs. I can like and the sun. You can snuff and the frogs. I can snuff my baby. Sorry, once a few. I love you. Sonny, you fucking orphan booze, I never don't cry. Sonny, you freaking orphan dogs, I don't in the cry. Oh, you got in the bones, I can pat in the bones. You've been crying in the eyes, I can house my honey. Sonny, once a few.
C'était en guise de pause musicale dans Cinérama, émission de cinéma. Donc, c'est un extrait de Altra. C'était la séquence dans sa durée initiale avec Bully Liners qui, je pense, faisait plus ou moins de l'impro sur cette chanson. C'est à toi, Marc.
Oui, on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, donc avec Green Zone. Donc avec ce film, Matt Damon retrouve pour la troisième fois Paul Greengrass, donc après les deuxième et troisième opus de la saga Jason Bourne. Vous savez, donc cet agent secret amnésique qui a oublié sa date de naissance, mais qui peut démonter une AK-47 ou vous faire une quiche au lardon antipersonnel, les yeux fermés. Et donc pour leur nouvelle collaboration, nos deux acolytes en ont profité pour augmenter la filmographie consacrée à la troisième guerre du Golfe. Donc Green Zone nous entraîne à la suite de Roy Miller, un capitaine de l'armée américaine chargé de trouver avec ses hommes les armes de destruction massive dont la présence supposée en Irak a enflammé l'opinion internationale et a cautionné l'intervention armée de la coalition. Donc après plusieurs opérations au cours desquelles Miller et son équipe reviennent bredouille, notre troufion commence à se poser des questions sur la fiabilité des renseignements que sa hiérarchie lui transmet. Et en partant à la recherche de la vérité, Miller va rapidement se retrouver au beau milieu d'un vrai sac de nœuds qui implique une huile du gouvernement, un ancien général de Saddam Hussein et un agent de la CIA. Donc avec Green Zone, on retrouve le style énervé de Greengrass, donc à base de shaky cam, de cadrage faussement chaotique, de zoom rapide et de montage cut, donc un style dont on avait pu avoir un échantillon avec La Vengeance dans la peau et La Mort dans la peau. Donc le rythme est plutôt à l'hystérie, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer devant les deux premiers tiers du film. Les séquences s'enchaînent sans temps mort et le scénario est suffisamment bien goupillé pour nous tenir en haleine. Par contre, sur son dernier tiers, le tempo soutenu qui nous entraînait jusqu'à présent dans une course en avant irrésistible commence un peu à nous bassiner et on se surprend à attendre le dénouement avec une certaine impatience. Donc un meilleur dosage de l'action dans cette dernière partie aurait peut-être mieux rendu justice au déferlement de violence qui envahit l'écran lors du climax final. Alors le principal problème de Green Zone, à mon avis, c'est qu'on a rapidement l'impression que Greengrass a une guerre de retard avec ce film. Son discours sur le conflit irakien, sur les mensonges divers et variés qui ont permis aux multinationales de se remplir la panse de bon pétrole persique depuis 2001, s'avère finalement assez prévisible et finalement bien peu subversif par rapport à d'autres films qui traitent du même sujet. Alors certains argueront sans doute que le blaireau américain moyen n'a toujours pas les yeux ouverts sur la manipulation médiatique que la planète en général et les États-Unis en particulier ont subi entre septembre 2001 et aujourd'hui. Mais bon, pour la plupart des spectateurs qui auront ouvert un journal au cours de ces dernières années, le sujet, le propos de Green Zone s'apparentera surtout à de la redite. Donc après Redacted, après Battle for Adita, Mensonge d'État ou Démineur, donc Green Zone vient grossir les rangs d'un certain cinéma politique qui prend pour cible les années de gouvernance Bush et le bordel sans nom que son administration a mis au Moyen-Orient. Donc le ton est donné assez rapidement lorsque les images post-apocalyptiques d'un Bagdad ravagé par la guerre et par les pillages laissent place à des séquences qui donnent à voir l'intérieur de la fameuse zone verte. Donc une zone verte où des pin-up se prélassent à côté de la piscine en buvant des cocktails. Alors le passage brutal entre les deux univers traduit d'une certaine façon cette opposition entre la situation telle que la perçoivent ceux qui tirent les ficelles et la réalité du terrain que les soldats expérimentent chaque jour. Donc si pour certains le conflit irakien n'est qu'un moyen de raser un pays dans le seul but de donner du travail aux entreprises de BTP, pour d'autres cette guerre est avant tout une bataille contre la tyrannie, un immense gâchis logistique et humain. Donc voilà, Roy Miller va se dresser comme le chevalier blanc contre sa hiérarchie pour faire éclater la vérité dans un bel élan héroïque et sacrificiel. Et pour le contrecarrer, le méchant politicard va envoyer à ses trousses un autre soldat sans scrupules qui a pour mission de tuer tous les témoins de l'odieuse machination avant qu'il ne puisse parler. Donc voilà, face aux dernières séquences du film, on a un peu l'impression d'être devant un nouvel épisode des aventures de Jason Bourne, tellement le dénouement sent bon la happy end, à peine assombri par un plan final lourd d'un sens que tout le monde a déjà bien saisi. Donc le didactisme du scénario n'est malheureusement pas le seul élément gênant dans ce film. Les seconds rôles sont rapidement catalogués entre politiciens véreux, agents de la CIA impuissants et mercenaires brutaux à la solde de l'armée. Certains dialogues flirtent par moments avec la caricature. Et donc dans l'ensemble, Green Zone fonctionne comme n'importe quel autre thriller politique avec son déroulement attendu, mais bon, suffisamment captivant quand même pour que le spectateur ne s'ennuie pas trop. Donc c'est finalement le choix du décor qui fait toute la différence, puisque le film de Greengrass est également un film de guerre, à la réalisation assez irréprochable. Donc le réalisateur nous offre quelques très belles images, malgré des partis pris esthétiques qui s'avèrent parfois un peu gênants. Donc le bon gros grain numérique des images nocturnes ajoute un côté documentaire à la mise en scène, mais parfois ça tient un petit peu du procédé arty en vogue dans le cinéma d'action américain. On pense à Michael Mann quand il filme de nuit, et bien l'image est quand même beaucoup plus belle. Donc à part ça, les comédiens s'en sortent très bien, même s'ils doivent composer, comme je l'ai dit, avec des personnages un peu caricaturaux. Et au final, donc Green Zone voilà, déçoit un petit peu, d'abord par la naïveté de son discours politique, ainsi que par le manque d'originalité du scénario, qui est pourtant signé Brian Helgeland, donc scénariste de LA Confidential, de Mystic River, entre autres. Et quand même, le film réussit à trouver une identité particulière, donc entre le film de guerre, le thriller politique et la réalisation, qui est quand même le point fort du film, qui, bon voilà, même si elle risque d'en énerver certains, s'avère encore une fois assez virtuose. Voilà, donc Green Zone de Paul Greengrass s'est projeté en version originale au Diagonal, également au Gaumont Comédie, et c'est sorti mercredi dernier, ou il y a la semaine d'avant, donc il va être encore projeté un certain temps.
Bien, merci Martin. Quand tu parles de Michael Mann et des visions nocturnes, moi j'ai un peu de mal, il se trouve, avec Michael Mann. Je trouve qu'on voit trop les projecteurs. Qu'on imagine trop le soin à la lumière, justement.
Et pourtant, en particulier dans Collateral, qui est vraiment filmé intégralement de nuit dans une ville, je crois qu'il avait développé une caméra particulière pour pouvoir justement se passer d'éclairage supplémentaire et utiliser simplement la lumière de la ville. Et il y avait quand même un grain qui était beaucoup moins envahissant, j'ai envie de dire, que dans Green Zone. Moi personnellement, je préfère l'esthétique de Michael Mann à celle de Greengrass. Ça marche mieux finalement dans un film d'action un peu décomplexé comme les Jason Bourne où là en effet c'est surtout le rythme qui compte, l'hystérie un peu et voilà.
Et sinon, LA Confidential et Mystic River. C'est des romans à la base, hein. Oui.
Oui, mais scénariste.
Là,
en fait,
tu parles de l'adaptation.
Je parle de celui qui a signé l'adaptation, le scénariste. Il en a fait d'autres hein, de scénarios. Là, je pourrais pas vous dire les titres, mais bon, il a fait quand même plusieurs films au scénario un peu à tiroir, un peu goupillé, un peu bien goupillé. Et là, c'est un peu dommage. On est un peu dans des clichés, même si ça reste un film qui se laisse regarder agréablement.
Au moins sur les deux tiers, donc.
Voilà, sur les deux premiers tiers.
Alors, eh bien, on repasse au duo Gustave Carverne et Benoît Delépine, donc avec Mammouth qui nous emmène dans le monde des points retraite, donc rien à voir avec les complots autour de la guerre en Irak, un sujet actuel que les réalisateurs traitent à la manière d'un film art et essai, tout en déconnant. Alors on suit Serge Pilardos, interprété par la grosse barrique de Depardieu, un type arrivant à la retraite qui fut équarisseur dans une usine de porc. Alors toute une vie à taquiner le jambon, ça use, eh bien pas tant que ça. À choisir, Pilardos serait bien continuer sa vie de prolétaire, tellement la retraite lui tombe dessus sans prévenir. Alors inadapté au monde du loisir, notre homme va trouver son salut dans un imbroglio administratif. Il lui manque des fiches de salaire pour qu'il puisse bénéficier de sa pension retraite.
Donc vous vous souvenez des entreprises qui manquent ?
Bah heureusement, j'ai une mémoire d'éléphant.
Bon mais c'est simple, il te manque 10 justificatifs pour les boulots que tu m'as dit là. Tu vas les chercher comme ça on est tranquille.
Alors ni une ni deux, il enfourche sa Munich Mammouth des années 70, une moto, et prend la route à la recherche des fameux paplards, comme il dit. S'il parvient à rencontrer d'anciens patrons, d'autres ont parfois quitté la vie ou ont liquidé l'usine depuis un moment. Alors notre Serge Pilardos, peu bavard, va s'accommoder de la situation et faire des rencontres parfois troublantes, comme cette bombe sexuelle handicapée physique. L'handicap est une obsession hein, chez Carverne et Delépine. Sa nièce, légèrement handicapée mentale, mais si touchante quand elle s'exprime dans l'art brut, ou encore un vieux cousin avec lequel il a eu ses premières expériences sexuelles. Et ces dernières retrouvailles vont donner l'occasion à Carverne et Delépine de tester le comédien Depardieu dans une situation qui ressemble à ce que peuvent faire les deux compères dans le magazine TV de Groland. Une des recettes du magazine télé du samedi soir, c'est quand même placer des personnes âgées dans des situations de jeunes aux prises avec la sexualité, la drogue et les excès en tout genre. Alors une recette qui fonctionne à la télé, qui est réutilisée ici. Et de l'humour dans Mammouth, eh bien il y en a, qui va puisé dans divers registres. Alors le décalage avec le personnage, le pauvre Serge se retrouve pour la première fois de sa vie dans un supermarché et va défoncer un caddie sans penser à placer un jeton pour l'emprunter. Du burlesque, comme ces dossiers qu'il pique dans une de ses anciennes boîtes et qui volent au vent. Et puis des dialogues aussi, alors peu nombreux, hein, parce que donc il n'est pas bavard, Pilardos. Alors c'est une masse, un tantinet émotive, mais un tantinet seulement. Il n'empêche, c'est surtout ce que les personnages sur sa route lui racontent et comment ils se transforment petit à petit. Qui importe. C'est ainsi que le film laisse apparaître un humour qui, dans l'ensemble, est teinté de mélancolie. Disons que ça n'est jamais vraiment la grosse poilade. Alors, donc, l'humour est présent, mais pas omniprésent. Le rythme va mollo au gré des rencontres. Alors, réduire Mammouth à l'histoire d'un gros balourd un peu couillon retraité serait abusif, même si Delépine et Carverne ne s'en revendiquent pas du monde des cinéphiles, mais plutôt de celui des artisans. Le film aborde l'image avec une pellicule surannée, grain et couleur bavante, une pellicule utilisée dans les années 70 par la télévision pour les reportages.
Tous les films se ressemblent, tous les films ont aucune qualité de grain, parce que le cinéma, c'est le grain du film. Et le noir et blanc, bien sûr, on ne pouvait pas faire, on a fait deux. Mais là, on a trouvé cette pellicule invraisemblable qui s'appelle l'inversing, qui est en fait du positif, c'est-à-dire comme des diapos. Donc les couleurs ressortent, donc tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils se retournent vers la... ils ont déconné dans le... Mais non, mais... Parce que plus personne n'est habitué à voir des choses différentes. Donc, et nous, on va dans ce truc-là, on s'en fout, on fait...
Voilà, c'était un peu aussi l'ambiance de la conférence de presse, c'est qu'un peu on s'en fout et puis on peut dire des énormités parce que, enfin, effectivement, enfin, quand j'ai entendu ça, enfin, ce qu'il disait sur l'image, je pense qu'il se trompe complètement. On parlait de Michael Mann d'ailleurs il y a pas longtemps, c'est vraiment une esthétique particulière. Il y a plein d'autres cinémas comme ça, quoi.
Après, c'est vrai que sur l'expérimentation péloche, parce que Michael Mann, Greengrass, là, c'est des gens qui travaillent en numérique surtout. Voilà, on pourrait difficilement filmer des images de nuit avec de la pellicule. Il y a peu de gens finalement qui expérimentent vraiment sur la pellicule. On peut penser à Grandrieux, qui fait des choses assez étonnantes.
Enfin, lui, il sert d'une pellicule normale, mais après, change les obturations et ainsi de suite. Et puis après, il y a le travail, la révélation. Enfin bon.
Mais c'est vrai que oui, pour une pellicule positive là, comme les diapos, comme il dit, ça doit donner une image assez particulière.
Oui, effectivement, oui. Ça ressemble, oui. Moi, j'ai pensé à des vieux films Super 8, effectivement, enfin, couleur. Mais bon, il est évident que Camping 2, par exemple, ne va pas s'attacher à faire une esthétique particulière dans l'image. Mais après,
malgré les ambitions incroyables.
Effectivement. Mais voilà. Mais en tout cas, le cinéma recèle d'esthétique vraiment très particulière. Donc, si l'image a toujours été un souci du tandem Carverne et de Lépine, l'image d'ailleurs au sens où ils aiment bien ne pas faire comme ce qui se fait habituellement, le son n'est pas en reste. Alors, les séquences au début du film sont assez significatives d'un cinéma qui fait de la matière sonore son beau souci, que ce soit un plan large avec des mangeurs de chips et un son omniprésent. La première séquence où l'on entend la femme de Pilardos, donc interprétée par Yolande Moreau, en hors-champ, on l'entend hors-champ, avant de la voir débouler dans la pièce de séjour, ou encore une séquence à la boucherie du supermarché où la caméra et l'enregistreur sonore laissent filer les personnages qui s'insultent. Alors, des instants comme cela, on en trouve plein dans Mammouth, et c'est l'essence du cinéma de Carverne et Delépine. Un cinéma loin d'être beau, mais artisanal, inventif, une poésie qui transpire sur le fond de l'histoire, un scénario dans lequel Depardieu ajoute une dimension inattendue, se laissant traiter d'abruti, mené en bateau jusqu'à un certain point, montrant son corps tel qu'il est, donc c'est quand même un gros corps, hein. Enfin, il ne cesse de s'en plaindre d'ailleurs à la télévision, et donc pour au final se réapproprier une vie qu'il avait laissée filer.
Reste toi-même, c'est eux les cons, une fonte, te laisse pas faire.
C'est bon de rien faire aussi.
Oui, j'ai pas eu l'occasion, souvent, de rien faire.
Voilà, c'est un type donc qui réapprend un peu à vivre sa retraite. Alors donc, on l'a entendu, là, il est accompagné dans son périple par une dame blanche en la personne d'Isabelle Adjani, dont le botox qui boursoufle son visage lui évite de passer des heures au maquillage pour incarner son personnage de revenante. Un sujet simple, mais un rôle singulier pour un film qu'il est tout autant, et Depardieu a joué pour rien. Alors ça, c'est aux dernières nouvelles, mais je pense qu'il aura des intéressements sur les recettes tout de même. Donc Mammouth est sorti la semaine dernière, je pense qu'il passera encore un certain temps, et j'ai pas vérifié, mais il passe assurément au Diago.
Tout à fait. Alors on va passer à un autre film, donc Kick-Ass de Matthew Vaughn. Donc après s'être essayé au film de gangster à l'anglaise dans la lignée de Guy Ritchie avec Layer Cake, après avoir fait un tour dans le monde de la fantasy avec Stardust, Matthew Vaughn a choisi pour son troisième long métrage en tant que réalisateur de s'attaquer au genre du comic movie. Alors attention, comic movie ne veut pas dire, comme on peut s'y attendre, film comique. Ce faux ami désigne en fait un genre cinématographique qui regroupe toutes les adaptations au cinéma de comics, soit les bandes dessinées chez nos amis anglophones. Donc Astérix aux Jeux Olympiques est un comic movie, tout comme Largo Winch, au même titre que V pour Vendetta, Wanted ou Clone. Mais bon, si l'on entend de plus en plus souvent ce terme dans le milieu de la critique ciné, très friand de néologisme quand il s'agit de créer de nouveaux genres, c'est principalement à cause de l'explosion des films de super-héros. Et justement, de super-héros, il en est question dans Kick-Ass, qui est sorti sur nos écrans mercredi dernier. Donc Kick-Ass, c'est l'adaptation d'une bande dessinée signée Mark Millar et John Romita Jr., qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme, fan de BD, qui décide de devenir le premier véritable super-héros de l'histoire.
Je me suis toujours demandé pourquoi personne l'avait fait avant moi. C'est vrai, avec tous ces comics, ces films, ces séries télé, on pourrait penser qu'un tordu se serait déjà fabriqué un costume. Vous trouvez la vie de tous les jours excitante, vous? L'école et le bureau, vous trouvez ça passionnant? Y'a que moi qui en rêve? Franchement, soyez honnête. On a tous rêvé un jour d'être un super-héros.
Et notre jeune geek de se commander à la redoute immédiatement une combinaison de plongée et de partir arpenter les rues en quête de justice expéditive à rendre pour la plus grande joie de la veuve et de l'orphelin. Alors malheureusement, quand on n'a pas de super pouvoir ou qu'on n'a pas les moyens de s'acheter une Batmobile et tout un tas de gadgets sympas pour botter le cul des méchants, la vie de super-héros n'est pas vraiment une sinécure. Et c'est ce que va apprendre notre sympathique Kick-Ass en se faisant massacrer plus souvent qu'à son tour. Donc heureusement pour lui, il n'est pas le seul à avoir eu l'idée d'enfiler un costume pour faire régner l'ordre. Et notre héros va rapidement rencontrer un étonnant duo de justiciers costumés, Hit Girl et Big Daddy. Alors Kick-Ass, c'est bien évidemment du pain béni pour les teenagers qui en ont un peu marre de subir les purges qu'Hollywood produit à la chaîne à partir de leur bande dessinée préférée, du genre Daredevil, Elektra ou Les 4 Fantastiques. Le nouveau film de Matthew Vaughn porte un regard amusé sur ce phénomène de mode que sont les comic movies et en particulier les films de super-héros. Donc les codes du genre sont décortiqués et détournés pour donner naissance à toute une série de scènes iconiques et référentielles qui raviront les amateurs de poses héroïques et d'exécution originale. Alors le personnage principal est un véritable anti-héros qui entretient quelques similitudes avec le Peter Parker de Sam Raimi, sauf que dans Kick-Ass, point d'araignée radioactive pour lui donner un coup de pouce ou un coup de dent. Son seul pouvoir, qu'il récoltera après une dérouillée particulièrement sévère, c'est une certaine insensibilité à la douleur. Donc Kick-Ass peut se faire maltraiter un peu plus longtemps que l'homme de la rue avant de crier « pouce ». Malheureusement pour lui, donc, un baron de la drogue va vite le prendre en grippe en le confondant avec Big Daddy, et Kick-Ass va se retrouver dans une situation pas vraiment enviable où son incompétence va s'avérer être un vrai problème. Alors dans l'ensemble, Kick-Ass s'avère être plutôt une réussite. L'histoire possède un côté décontracté et fun qui nous change un peu du sérieux avec lequel sont traités les blockbusters de super-héros récents comme Wolverine, pour ne citer que celui-là. La violence graphique qui irrigue la BD est la plupart du temps assez peu édulcorée, même si on est quand même loin des scènes ultra-gore dessinées par John Romita Jr. Les morts sont nombreuses et violentes. Et le personnage de Hit Girl ressemble à s'y méprendre à une version fillette de la mariée de Kill Bill, avec un même engouement pour le katana et le démembrement. Alors le principal problème du film réside dans son aspect comédie adolescente, qui n'évite pas certains poncifs et autres caractérisations des personnages à grands traits, ce qui nous plonge à intervalles réguliers dans le teen movie bas du front. Le personnage principal est celui qui pâtit le plus de cette volonté de plaire à un public bien ciblé, biberonné à Heroes et Smallville et ravi de voir sur grand écran un personnage qui se masturbe autant qu'eux. Le traitement de l'histoire d'amour est par exemple particulièrement convenu et on s'étonne de retrouver au milieu d'une œuvre à la subversion affichée les pires défauts des troisième volets de Spider-Man ou de X-Men. Même si on pense assez souvent à Bienvenue à Zombieland ou au film d'Edgar Wright, Shaun of the Dead et Hot Fuzz, l'humour a du mal à trouver son équilibre entre une ironie bien noire, un sens de l'absurde plutôt bienvenu, et des situations potaches qui viennent plomber le film. Enfin ça c'est mon avis, je suis sûr que les amateurs de la saga American Pie ou de Superbad seront séduits par ces séquences. Alors heureusement, d'un autre côté, certains personnages sont particulièrement réussis. Hit Girl, Big Daddy, voilà, la fillette de 11 ans, sanguinaire, et son père foualier sont peut-être les éléments les plus intéressants du film de Matthew Vaughn. Leur relation est particulièrement bien développée à travers entre autres une séquence de flashback en animation qui rend un bel hommage à la BD. Dans une autre séquence qui rend là aussi hommage à tout un pan de la culture populaire, donc le jeu de tir, le jeu vidéo de tir à la première personne, le FPS, ces deux personnages parviennent à faire naître l'émotion, malgré un ton général plutôt orienté vers la comédie. Et finalement, on regrette un peu qu'une plus grande part de l'intrigue ne soit pas consacrée à Nicolas Cage et à Chloé Moretz, et que le réalisateur n'ait pas sacrifié une des trop nombreuses scènes de comédie avec les deux copains crétins du héros. Donc si Kick-Ass se veut avant tout être une comédie d'aventure à consommer sans arrière-pensée, le réalisateur pose quand même quelques questions intéressantes sur l'héroïsme, sur le vigilantisme et la violence dans les médias. Donc encore une fois, ce sont les personnages de Hit Girl et de Big Daddy qui cristallisent tout ce que le super-héroïsme impliquerait dans la réalité, sacrifier ses relations sociales, sacrifier son enfance, son innocence, pour les troquer contre une certaine inhumanité, donc un choix qui rapproche finalement le héros, le super-héros de ses super-vilains, de ses adversaires super-vilains. On avait déjà pu rencontrer le même type de questionnement dans The Dark Knight de Christopher Nolan, qui était sorti l'année dernière, et de façon un peu plus métaphysique ou pompeuse, selon l'avis de chacun, dans Incassable de Shyamalan. Mais bon, finalement, Kick-Ass doit surtout se déguster comme un petit film sans prétention qui, bah, s'il aurait mérité un ton un peu plus adulte, n'en demeure pas moins une assez bonne raison de s'enfermer dans une salle de cinoche malgré le temps radieux de cette fin de mois d'avril. Et pour les plus geeks d'entre nous, vous pourrez à partir d'aujourd'hui vous enchaîner le film de Matthew Vaughn avec Iron Man 2.
With no power comes no responsibility. Except that wasn't true.
We'll be right back.
Voilà donc un extrait de la bande originale de Kick-Ass de Matthew Vaughn, c'était les Hit Girl Bad Reputation. Donc Kick-Ass passe un peu partout dans les salles, en VF malheureusement. Voilà, et c'est un film que je vous recommande, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un petit film sympathique.
On peut aller le voir au-delà des deux tiers, donc c'est un des critères, non, c'est ça. On passe alors très très vite avant de retrouver Kitano et ton petit topo sur l'exposition que tu as vue à Paris. On va parler très vite de Comme les cinq doigts de la main, le dernier film de Alexandre Arcadi avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz et Pascal Elbé. Entre autres, voilà, bah, c'est un film que je ne vous recommande absolument pas. C'est un film très très long. Alors c'est encore un film d'Arcadi avec un polar plutôt manqué, avec toujours ces films sur la famille juive, comment elle s'entend bien, comment voilà, et ce qui fait l'union sacrée. Alors entre cinq frères sauf un, puisqu'il y en a un qui a mal tourné. Alors il passe vraiment 45 minutes, voire 50 minutes, à nous montrer comment ces gens sont effectivement soudés, comment cette famille est belle. Et puis après ça dérape parce que il y a un des fils qui est poursuivi par des gitans. Voilà, enfin les gitans sont les méchants. Et ces gitans, eh bien, ils viennent d'une ville qui est, allez.
Je sais pas.
Si on est dans les clichés. Non, si on est dans les clichés.
Aucune idée.
Où sont les malfrats ?
À Marseille.
À Marseille, ils sont à Marseille. Et puis il y a une Audi, enfin tu vois, on retrouve un
d'accord.
peu.
D'accord. C'est Besson.
Un peu la caricature de Besson, enfin voilà. Ouais. Donc il y a tout ça finalement. On apprend que c'est pas vraiment comme ça, enfin qu'ils les gitans devraient pas en vouloir à celui-ci, ils vont se faire justice. Enfin ça c'est aussi un classique d'Arcadie. Notamment dans, enfin, il y avait cette question-là dans l'Union Sacrée, il ne l'a toujours pas résolue. Et voilà, donc c'est très très ennuyeux avec une fin plutôt incohérente. N'allez pas voir Comme les cinq doigts de la main, qui n'apporte rien du point de vue du polar et qui n'apporte pas non plus grand-chose sur la famille et les liens qu'on peut tisser entre frères et sœurs. En l'occurrence, il n'y a que des frères. Donc c'est le côté viril en plus. Il y a un petit côté viril. Mais avec Bruel en chef.
C'est dommage, puisque le casting avait plutôt de quoi faire envie. Vincent Elbaz, Bruel...
Il y a Caravaca aussi. Je me demande ce qu'il est venu faire là-dedans. Mais bon, ouais. Voilà, c'est comme ça.
Il n'y a pas Philippe Naon aussi qui fait un petit rôle
Je ne sais pas.
Mais bon, oui, le casting, l'affiche faisait plutôt envie. Tu dis que c'est une purge,
oui.
Je n'irai pas le voir.
Oui.
Et donc, pour finir cette émission, il y a quelques semaines, Vincent nous avait régalé d'une critique d'Achille et la Tortue, le dernier film en date de Takeshi Kitano, troisième volet d'une trilogie autobiographique et réflexive sur les différentes casquettes que l'artiste coiffe alternativement depuis les années 70. Donc, le premier, c'était Takeshi's, qui s'intéressait à Kitano comédien. Le second, Glory to the Filmmaker, qui s'intéressait à Kitano réalisateur. Et enfin, donc, Achille et la Tortue, qui se penchait sur le Kitano peintre. Alors à l'occasion de la sortie en salle de ce nouveau film, la France a décidé de consacrer à Kitano une grande rétrospective, donc au centre Georges Pompidou, avec une quarantaine de longs métrages programmés. Et en parallèle, une expo consacrée à ses réalisations plastiques a été organisée à la Fondation Cartier. Donc voilà, comme la semaine dernière j'étais allé boire des coups sur les Champs-Élysées, j'en ai profité pour aller y faire un petit tour. Et avec cette expo qui s'intitule « Gosse de peintre », Kitano a fait le choix de s'adresser en priorité aux enfants et de concevoir l'expo comme une gigantesque installation. Le visiteur est accueilli par une statue grandeur nature de l'artiste qui contemple son propre cerveau avec l'air de se demander surtout comment il fonctionne et comment un tel bazar peut naître dans une petite masse de chair comme ça. Et en effet, on est immédiatement plongé dans un imaginaire bouillonnant qui convoque aussi bien la science que le rêve ou l'humour le plus potache. Donc dans une grande pièce, une gigantesque locomotive machine à coudre modèle Kitano confectionne un ridicule petit ruban sous les yeux d'un dinosaure de 3 mètres, entouré d'affichettes qui expliquent les raisons de la disparition des grands prédateurs. Donc si les dinosaures ont disparu, c'est qu'ils avaient des bras trop petits et qu'ils ne pouvaient donc pas faire tout un tas de choses essentielles à leur survie, comme s'essuyer aux toilettes, devenir joaillier ou champion de boxe. Voilà, on retrouve le côté très potache que Kitano développait dans ses émissions de télé. Un peu plus loin, donc une autre machine essaye de représenter la disproportion entre le temps humain et le temps qu'il a fallu à l'univers pour qu'il prenne forme. Sur un plateau vibrant, des ressorts et autres pièces éparpillées attendent que le hasard et les vibrations reconstituent une horloge. Un peu plus loin, les enfants peuvent jouer avec un casse-tête traditionnel bouddhiste qui ne peut être complété qu'en 580 milliards d'années. Voilà, donc il y a un jeu sur les différences de perception temporelle. Ça, c'est assez amusant. Au sous-sol, le ton est toujours à la rigolade avec une galerie de monstres, de chimères, des poissons à tête d'éléphant ou d'hippopotames, des hippocampes girafes et autres animaux à tête de fleurs qu'on avait d'ailleurs pu voir dans Hanabi. Et enfin, une sélection des pitreries donc, Kitano fait à la télé japonaise permet de se rendre un peu mieux compte de sa personnalité de clown. Donc voilà, une exposition très sympathique, colorée, drôle, qui nous permet d'un peu mieux cerner un artiste complexe, qui est extrêmement populaire au Japon, mais qui est surtout connu en Occident pour ses films de gangsters dramatiques, à part Getting Any, je crois, qui est peut-être le seul film un peu connu, comique, mais qui avait été très peu exploité en France. On connaît surtout voilà Hanabi, Sonatine, Violent Cop, Aniki mon frère, etc. Donc c'est ça permet vraiment de découvrir un peu une facette qu'on n'a pas l'habitude de voir de Kitano. Et c'est plutôt sympa. Donc si vous avez prévu de passer par la capitale avant le 12 septembre prochain, puisqu'elle continue tout l'été jusqu'au 12 septembre, n'hésitez pas. Pour vous donner une idée, vous avez quelques photos sur le site fluctuate.net. Donc vous tapez gosse de peintre et vous aurez quelques photos de l'exposition. Et pour en finir, je vous propose d'écouter une autre petite pause musicale. C'est Joe Hisaishi, un fidèle collaborateur de Kitano sur ses films, qui a signé, entre autres, la bande originale du film Hanabi. Voilà donc un extrait de la bande originale de Hanabi signé Joe Hisaishi. C'était pour illustrer donc cette expo Gosse de peintre, une expo consacrée à Beat Takeshi Kitano. C'est à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. Donc ce sera pour ceux qui voudront aller faire un tour à la capitale. C'est du côté de Raspail, d'Enfer Rochereau. Voilà, si vous tapez sur internet Fondation Cartier, vous allez trouver les moyens d'accès.
C'est pas la première fois hein, d'ailleurs que la Fondation Cartier rend hommage à un réalisateur, puisque David Lynch,
tout à fait, que j'avais
ans,
vu, ouais.
Je crois. T'avais vu
aussi. Ouais, qui était une moi, superbe expo, qui était très impressionnante. On n'était pas du tout dans le même esprit. Là, Kitano, c'est très léger, c'est aérien, coloré, etc. Kitano, c'était vraiment dur. Il y avait une bande-son qui avait été faite, je crois, par Badalamenti. Alors, ça, à vérifier, mais. Donc il y avait sans arrêt du son, des grincements, vraiment une ambiance sonore aussi très, très prégnante. Et voilà, on découvrait un peu le travail de peintre aussi de David Lynch. Ça, c'était une superbe expo. Et la prochaine, donc à la Fondation Cartier, sera consacrée à Mébus. Donc Mébus, dont j'avais parlé un petit peu dans mon dossier sur la BD et le cinéma, puisque Mébus a participé à plusieurs films.
Star Wars.
Star Wars. Non,
c'est
il
pas
a,
lui qui a dessiné les.
Il a participé à Tron, entre autres.
Tron. D'accord.
Et quelques autres films. Donc voilà, mais ça c'est une expo que je vous recommande.
Eh bien, merci. On passe aux événements hein, pour achever l'émission. Événements peu nombreux.
Oui, bah, là, pour la semaine qui vient, donc demain, tu en as parlé, puis tu en reparlais peut-être rapidement, puisque tu as vu le film. Il y a une projection à 19h50 de La Chine est encore là, au loin, de Malek Bensmaïl, qui sera présent donc, pour discuter avec vous autour du film. Donc ça c'est demain 19h50 et puis lundi une séance unique, donc comme chaque mois un film de répertoire au Diagonale toujours, donc c'est lundi à 13h50, vous pourrez aller voir ou revoir Victor Victoria de Black Edwards, donc réalisateur entre autres de The Party, de La Panthère Rose, etc. Et voilà, un grand classique, c'est lundi à 13h50.
Alors bah oui, je parle très très vite de La Chine est encore loin, donc la projection de demain de Malek Bensmaïl. Alors c'est un documentaire hein, tout d'abord, donc Malek Bensmaïl est algérien, il est retourné dans le village s'appelle Gassira, donc c'est un village chaoui perdu au milieu de nulle part, et c'est un événement en 54, le 1er novembre, qui a lancé ce qu'on a appelé ensuite la guerre, enfin qu'on n'osait pas appelé la guerre d'indépendance de l'Algérie française, enfin de la oui qui était française à l'époque, avec l'assassinat d'un couple d'instituteurs français et puis d'un caïd. Donc il est retourné dans ce village, donc on voit l'Algérie moderne et puis on y retrace grâce à des personnes qui sont soit octogénaires, soit un peu plus jeunes, et bien l'histoire de cette période finalement avec des contradictions. Et puis on suit aussi, alors ce qui est très intéressant dans ce documentaire, on suit une classe avec un instituteur parce que en fait ils parlent une espèce de patois hein, dans ce village, mais ils doivent apprendre l'arabe classique à l'école et puis aussi le français s'ils veulent faire des études supérieures. Enfin voilà, donc ils sont bien complètement schizophrènes entre d'une part une tradition de langue familiale et puis l'arabe classique et puis le français donc qui vient de nulle part parce qu'il ne le pratique pas sinon il ne le pratique pas en fait voilà. Donc ça on voit toutes ces choses la contradiction entre cette indépendance et puis finalement la langue française qui est encore présente donc qui est issue forcément de cette colonisation. Donc voilà, c'est un rythme alors un peu lent mais quand même hyper intéressant et il y a énormément de personnes qui y participent et puis on voit aussi une femme de ménage ouais, y a très peu de femmes dans mon souvenir, hein. C'est un film que j'ai vu il y a 2 ans. Voilà, on voit une femme de ménage aussi avec un discours intéressant qui elle aussi parle de l'Algérie moderne et comment c'est pas facile de se débrouiller là-bas dans ce pays. Voilà, donc je conseille d'aller voir La Chine est encore loin. Et puis Malek Bensmaïl est aussi quelqu'un de très intéressant qui fait rarement des documentaires complaisants. Il a parfois des difficultés à tourner là-bas en Algérie, dans son pays.
Donc c'est demain 19h50 au Diagonal Capitole. Et ben, on va vous dire au revoir. Hein. On se retrouve la semaine prochaine.
Et la semaine prochaine, il sera sûrement question donc, d'un spécial Gaspard Noé à l'occasion de la sortie de Hunter
The Void.
Et d'ailleurs, à la fin de ce générique, on pourra écouter un extrait d'Irréversible, voilà, qui a été un film coup de poing, mais il fait que ça, hein, Gaspard Noé. Enfin, mais moi, c'est un cinéma que j'apprécie énormément. Donc, ce sera la semaine prochaine. Et puis, toi, je ne sais pas ce que tu as prévu d'aller voir.
Bah, dans le même esprit, j'irai sans doute voir Iron Man 2, ah oui. Voilà, pour coller avec Gaspard Noé. Et puis, non, je ne sais pas, il y a plusieurs films. Il y a La Comtesse de Julie Delpy, qui a l'air d'être un film très intéressant. Donc voilà, mais on vous retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle heure consacrée au cinéma.
C'était Cinérama, l'émission du mercredi 28 avril. On remercie Loulou à la technique, Loulou stagiaire actuellement à Divergence. Au tout début c'était Julia qu'on remercie aussi. Et donc à la semaine prochaine, au revoir Martin.
Au revoir.
Tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous connaissez ? Ça n'a pas l'air d'aller. Ça
dur. Je crois toujours que ça arrive qu'aux autres. Puis quand ça nous tombe dessus, on perd les pédales. On sur la police, alors? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire, la police? Vous savez très bien qu'ils vont rien faire. Hein? Ils vont le retrouver, ils vont le mettre en prison, ils vont lui donner à manger, ils vont l'habiller, ils vont le laver, ils vont lui donner un médecin. Votre ami, tout à l'heure, il a pas eu le droit au médecin. Hein?
Qui t'es, toi?
Qui je suis? Jusqu'à preuve du contraire, là, je vais devenir ton meilleur ami. Je peux t'aider à le retrouver, si tu veux. Je sais pas, vous avez l'air de gens corrects, bien habillés. Apparemment, vous avez les moyens. Si vous avez un peu d'argent, on peut vous aider à vous venger. Malgré ça, elle a fait couler le sang. Le sang appelle la vengeance.
Cinérama.
Vengeance, c'est le droit de l'homme.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.